Gloire à Dieu.
Ça va? Regarde ton voisin et dis-lui, t'as une belle tête de brique. Non, sérieux? Pourquoi vous le faites pas? Bon, vous voulez qu'on soit plus spirituel? Ouais, ça serait mieux. Dis-lui, t'as une belle tête de pierre. Ou une belle tête de parpaing. Pourquoi cette introduction un petit peu particulière? Parce que la réflexion que nous allons mener ensemble ce matin est issue d'une série que j'ai faite il y a quelques années. Et en retombant sur le texte que nous allons travailler, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et cette série, cette prédication s'insérait dans une série qui parlait de plusieurs anonymes de la parole de Dieu. Quand on voit l'Église, on l'imagine comme étant finalement un petit peu à l'image ou celle des pasteurs, des responsables spirituels ou des gens en vue. Mais nous le savons, l'Église, c'est qui, c'est quoi? C'est un édifice spirituel qui est composé de toutes les pierres vivantes qui ont été rachetées par le sang de Jésus. Et parmi ces pierres vivantes, parmi ces parpaings vivantes, parmi ces briques toulousaines vivantes, parmi ces briques columéraines, d'accord, ok, je vois qu'il y a un petit contentieux là, ok. Merci Elodie, je suis nouveau. Hein. Il y en a de tout profil. Il y a des pierres chauves, il y a des pierres jeunes, il y a des pierres moins jeunes. Il y a des pierres enfants. Il y a des pierres qui ont des histoires compliquées, des histoires douloureuses, mais toutes font partie de cet édifice spirituel qu'est l'Église. Amen. Qui transcende les générations, qui transcende les temps. La première de ces pierres a été la pierre angulaire, Jésus, qui a fait le niveau de tout l'édifice. Et ensuite, eh bien, via la prédication de Pierre à la Pentecôte, eh bien, bon nombre se sont rajoutés. Et parmi cette multitude, il n'y a pas que des Pierre, il n'y a pas que des Paul, il n'y a pas que des Jacques, mais il y a toutes sortes d'anonymes qui constituent l'Église. Et moi, ce que je crois, et je le dis avec beaucoup de conviction, c'est que ce qui fait la force d'une Église, ce n'est pas forcément les pierres que l'on voit, mais c'est bien souvent celles que l'on ne voit pas. Et c'est surtout le ciment qui les unit. Et quand on en a conscience, tout d'un coup, l'estime de nous-mêmes reprend du sens. Tout d'un coup, on se sent investi de quelque chose, d'une mission. Parce que nous ne sommes pas simplement des enfants de Dieu, mais nous faisons partie d'un édifice dans lequel nous sommes importants. Et nous avons été rachetés dans un but. Nous faisons partie de quelque chose qui est plus grand que nous. L'Église est tellement plus grande que nous. L'Église était là avant nous, elle sera là après nous, si le Seigneur ne revient pas. L'Église, eh bien, a transcendé les temps, a transcendé les épreuves, a transcendé, eh bien, toutes les difficultés qui soient. Et encore aujourd'hui, dans des pays où les chrétiens sont persécutés, l'Église demeure. Et elle continuera à demeurer parce que, eh bien, les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Et l'Église, c'est moi, mais c'est vous. L'Église, eh bien, c'est chacun d'entre nous. Et dans l'Église, je le disais, il y a toutes sortes d'anonymes et on s'aperçoit que ces anonymes, eh bien, ils vont effectuer des tâches qui parfois, eh bien, ne sont pas reconnues, mais qui sont ô combien importantes et qui ont ô combien du sens. Et l'anonyme, qui ne l'est pas complètement, puisque l'on connaît son nom, que nous allons voir aujourd'hui, s'appelle Onésiphore. Et il est dit dans la seconde épître de Paul au Timothée que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur. En ce jour-là, tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que moi, je n'imaginais pas Paul avoir besoin de consolation. Sérieux. le mec qui a eu une révélation du ciel et qui dit « Ouais, toutes les souffrances du monde présent, dédicace pour Elodie, toutes les souffrances du monde présent ne sont rien comparées à la gloire qui m'a été révélée et qui me le sera, etc. Bref, tout ce que j'en bave aujourd'hui, les lapidations, les trucs et les machins, c'est rien comparé à ce que j'ai vu dans le ciel. T'as besoin d'être consolé, toi ? La personne qui faisait des miracles, qui vivait des miracles, qui conduisait le troupeau, il a besoin d'être consolé. Et pourtant, c'est le cas. Tu peux passer sur les slides, hein, n'hésite pas. Et c'est la suite, c'est un, deux, trois slides suivantes. Et finalement, l'apôtre Paul a eu besoin de cela. Mark Twain dira la chose suivante, il dira que la compassion est la langue que les sourds peuvent entendre et la lumière que les aveugles peuvent voir. C'est-à-dire que s'il y a bien un langage qui est universel, c'est la compassion. Et l'apôtre Paul a eu besoin de cette compassion. L'apôtre Paul a eu besoin, à un moment donné, de recevoir de l'amour, de recevoir quelque chose. Et dans nos milieux chrétiens, on est un petit peu maso. Parce que si l'Église est le lieu où, normalement, on devrait être capable d'exprimer nos besoins de manière à ce qu'ils puissent rencontrer de la compassion. Et parce que bien souvent, nous avons la foi, parce que bien souvent, nous prêchons un Dieu tout-puissant, alors nous jugeons comme un acte de faiblesse le fait, parfois, de répandre nos cœurs et de dire « Eh oh, j'ai besoin d'aide !» Un jour, une brave chrétienne est venue me voir, et puis elle m'a dit « Mais Olivier, est-ce que tu pleures ?» C'était une femme que j'aime beaucoup, une femme de tête, une femme spirituelle. Je l'ai regardée, je lui ai dit, mais pourquoi tu dis ça ? Parce qu'on ne t'imagine pas pleurer. Tellement quand tu prêches, il y a de l'énergie, il y a de la foi, tellement tu es toujours souriant devant nous. Et je lui dis, je ne sais pas si je dois dire merci ou si je dois te frapper. Elle a rigolé, elle me dit, fais-en ce que tu veux. Et cette femme, elle m'a montré une chose, c'est qu'à cause de notre foi, bien souvent, nous oublions de montrer notre vulnérabilité. À cause de mon titre de pasteur, pendant très longtemps, j'ai estimé que je n'avais pas à montrer ma vulnérabilité. Parce qu'on a Jésus dans notre cœur, c'est presque comme si on n'avait pas le droit de souffrir, en fait. Mais la réalité est tout autre. C'est que l'apôtre Paul a eu besoin, à un moment donné, d'être réconforté. Il a eu besoin de recevoir cette compassion. Il a eu besoin que l'on prenne soin de lui. Il a eu besoin que la maison de Nésiphore, c'est-à-dire, nous verrons tout à l'heure, l'église qui était dans la maison de Nésiphore, puisse prendre soin de lui. Il a eu besoin qu'à un moment donné, on l'aime de manière concrète. Et lorsqu'il écrit cette seconde épître à Timothée, l'apôtre Paul vit la période, il était au crépuscule de son ministère. Il y a eu deux périodes d'emprisonnement. La première, lorsqu'il écrit c'est la plupart de ses épîtres, c'est à Rome, il est en liberté surveillée, etc. Et finalement, il peut recevoir de la visite, etc. Il est emprisonné, mais il peut vivre. Là, il sait qu'il va mourir. Et pourtant, dans ce contexte-là, il se souvient qu'il a été aimé par Onésiphore. Je crois que la compassion, nous devons apprendre à l'exercer. Mais nous devons également apprendre à la recevoir. Et très sincèrement, tous les anonymes que nous sommes, pouvons à un moment donné apprendre à exercer et avons besoin de recevoir cette compassion. C'est compliqué de se laisser aimer. C'est compliqué d'ouvrir notre cœur et de recevoir de l'amour. C'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel. Pour nous les messieurs, un homme ne pleure pas. Et pour vous, mesdames, d'une autre manière. Ce n'est pas facile de se laisser aimer par nos frères et sœurs, mais ce n'est pas facile non plus de se laisser aimer par Dieu. Parce qu'il y a toujours cette notion de mérite. Je ne le mérite pas. À un moment donné, l'apôtre Paul, il va être lapidé. Alors qu'il est à Lystre, des juifs d'Antioche, etc., sont en train, viennent le rencontrer, et nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, et il est lapidé. Une lapidation, vous savez comment ça se passe ? J'ai emmené des cailloux, Antonin vient. Non, je plaisante. Ok ? c'est pas des petits cailloux qui étaient jetés, c'est des grosses pierres et qui venaient fracasser tous les membres du corps, la tête, etc. Et on laissait la personne comme morte. Et il fallait des mois et des mois pour se relever d'une lapidation. Parfois, on passe un petit peu rapidement. Et alors qu'il est à Lystre, le texte nous dit que les frères vont l'entourer et que Paul, le lendemain, il va repartir. C'est-à-dire que, via la communion fraternelle, parce qu'il a été entouré, alors il a pu se relever d'un truc dont on ne se relève pas. Et ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est que le texte ne dit pas que c'est le Saint-Esprit qui l'a relevé, mais que c'est la communion fraternelle, que c'est parce qu'il a été entouré, et bien que alors il a pu être relevé. Et le Saint-Esprit, pour agir, a besoin de notre humanité. C'est-à-dire que si dans mon cœur, à un moment donné, il n'y a pas de la compassion, si dans mon cœur, à un moment donné, eh bien, mon cœur ne s'ouvre pas, alors le Saint-Esprit ne peut pas se poser, ne peut pas agir. Ce qui a permis au Saint-Esprit de faire le miracle et de relever Paul, c'est qu'il y a eu l'amour d'hommes et de femmes qui l'ont entouré. Un jour, je discutais avec un pasteur. Il était venu faire une mission et cet homme-là avait un ministère de délivrance remarquable. Et je lui ai posé la question, il disait, mais frère, comment faire en sorte que les possédés soient libérés ? Cet homme, il m'a regardé comme si j'étais un benêt, puis avec tellement d'amour, et il m'a dit, bah, t'as qu'à les aimer. Cette parole, elle est restée dans mon cœur. Parce que les frères et sœurs qui étaient à Lystre ont aimé Paul. Alors, le Saint-Esprit a pu se poser sur leur humanité. Pourquoi oppose-t-on surnaturel et humanité ? Moi, je pense que le péché a détruit notre humanité et que la grâce nous redonne un cœur de chair. Tu n'as pas forcément besoin d'être plus spirituel ce matin. Mais tu as besoin de redevenir humain. Tu as besoin de réapprendre à aimer. Et j'ai besoin, mon Dieu, de réapprendre à aimer. L'apôtre Paul, il est dit également dans ce verset qu'il a été souvent réconforté. C'est-à-dire que ce n'est pas un one-shot, mais régulièrement, l'apôtre Paul a eu besoin de recevoir des marques d'affection. Je pense qu'on ne passe pas une journée sans prendre des coups. On ne passe pas une journée sans, à un moment ou à un autre, avoir des choses qui se tordent en nous. Dans la prière, accorde juste 5 minutes au Saint-Esprit pour te demander à qui envoyer un texto aujourd'hui. Petit challenge cette semaine. D'accord ? Est-ce que tout le monde se connaît ? Est-ce que tu connais au moins 10 personnes dans l'église ? Ouais ? Non ? Bon, peut-être. 5 ? 4 ? Bon, je te filerai mon numéro de téléphone, ça marche ? Et là, dans la prière, 1, demande à Dieu, finalement, ok, fais grandir ma compassion. Et 2, je te laisse 5 minutes, je vais me taire. Mesdames, ça va être compliqué. Merci. À qui est-ce que je vais envoyer un petit message, un petit verset, un petit quelque chose ? Juste ça. Petit challenge de la semaine. De qui est-ce que je vais être le nésiphore ? Cette semaine, et la semaine qui vient, et la semaine d'après. Parce que ça fait partie de la culture de la foi chrétienne. Ça fait partie des résultantes de ma relation avec Dieu. Si vous n'avez pas de téléphone portable, vous pouvez le faire par courrier, ça marche aussi très très bien. D'accord ? Je m'adresse aux anciennes générations. Voyez-vous, il a eu besoin d'être réconforté. Slide suivante. Merci. L'apôtre Paul, en slide suivante, parce que là j'ai un trou de mémoire en fait, donc là tu m'aides pas. Voilà. Encore. Vous voyez, je suis vulnérable. Encore. Voilà. Encore. Merci. Les pistes pour réconforter quelqu'un. Les pistes pour réconforter quelqu'un. Premièrement, écoutez avec empathie. L'apôtre Jacques dira ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Qui est doué pour écouter ? Messieurs, je ne parle pas du « que vous faites à vos femmes lorsqu'elles vous parlent. Nathanaël est très doué pour ça. Vraiment très très doué. Celui-là, il ne marche pas. Je te montrerai comment faire mieux, Nat. D'accord ? Voilà, je te montrerai comment faire beaucoup mieux. Donc, l'empathie, c'est un mot qu'on met à peu près à toutes les sauces. L'empathie, c'est une notion qui a été développée par notamment Carl Rogers et qui a été ensuite étayée et qui a deux pieds. Le premier pied de l'empathie, c'est de faire en sorte que je puisse comprendre les sentiments de l'autre, les émotions de l'autre. Et au-delà de ça, c'est bien plus que ça, c'est que l'autre ressente que je le comprends. Okay ? Donc, voilà, il y a cet aspect-là. Et le deuxième aspect, qui est moins connu, parce que l'empathie a deux jambes, ce n'est pas de s'effondrer comme une madeleine avec quelqu'un, l'empathie, mais c'est au contraire d'être bienveillant et d'être sécurisant, de manière à lui dire, tu vois, les émotions que tu vis, les émotions que tu ressens, elles ne te détruiront pas parce qu'elles ne me détruisent pas, moi. Okay ? Donc, être lent à parler et prompt à écouter. Et je crois que, avant de prier pour quelqu'un, avant de lui balancer 15 versets à la seconde, avant de lui expliquer notre témoignage et qu'on a vécu la même chose que lui, mais que nous, on s'en est sortis parce que Dieu était avec nous et sous-entendu qu'on est bien meilleur que lui. Oups, pardon, je l'ai dit. Vous ne me connaissez pas encore, mais parfois, j'ai plus de filtre. Ma femme n'est pas là en plus ce matin, donc j'ai encore moins de filtre. Parce que des fois, elle fait « Oh !» Et donc, si j'écoutais ce que tu ressens en fait, si j'écoutais ta situation et que j'essaye de la comprendre, non pas au filtre de ce que j'ai vécu, mais au filtre de ce que tu me dis, quoi. Si je me taisais et que je te montrais que tu es important pour moi parce que tu es important pour Dieu. Et jusqu'à preuve du contraire, quand vous priez, quelle est la première chose que Dieu fait ? Il se tait, il vous laisse prier. Et ensuite, peut-être qu'il vous exauce. Mais surtout, il vous donne la paix à la fin. Mais il reçoit. Et je crois que c'est finalement notre rôle de dire, ok, je veux consoler, je veux être un instrument de consolation. Tu veux être un instrument de consolation, Stéphanie ? Oui ? Amen ? Eh bien, tais-toi. C'est la base. Ça commence par ça. D'accord ? Et ça, c'est hyper important. Deuxième chose, offrir des paroles encourageantes. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. Et une fois qu'on a écouté, on sait quoi dire. Et des paroles encourageantes, ce n'est pas forcément des choses qui viennent de notre vie, mais c'est des choses qui viennent de la vie qui sont devant nous, de la personne qui est devant nous. Qui est devant nous. Antonin, ce matin, il est à Faune. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Première chose. Et deuxième chose, c'est une très bonne nouvelle pour toi. Tu es à Faune, j'entends ta souffrance, je sais que c'est compliqué pour toi, d'accord ? Mais sache une chose, c'est que quand tu retrouveras la voie, tu pourras nous bénir encore plus. Amen. Et on offre des choses sur lesquelles s'appuyer. Tu as vécu des choses compliquées déjà dans le passé, tu t'en es sorti. Allez, Dieu est avec toi et ça c'est important. Et je crois que c'est hyper vrai, quoi. Des paroles encourageantes, c'est pas de la morale, c'est pas de la moralisation. C'est parce que tu as péché. Repends-toi. Mon Dieu, quelle horreur. Ok ? Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. C'est pas le mien. Priez ensemble. Il y a un ordre chronologique. Je peux vous choquer ? Il y a parfois des entretiens où je ne prie pas avec les gens. Mais je les accueille. Ce qui est important, c'est qu'ils se sentent aimés, quoi. Et dans mon cœur, je prie. Ça marche aussi bien. Quatrième chose, proposer une aide concrète. Vous remarquez dans le verset qu'on a lu, l'apôtre Paul, il dit, il m'a souvent porté mes fardeaux, il m'a souvent donné des choses. Et je crois que le concret vaut parfois mieux que bien des prières. Parfois, ça ne va pas l'arsener, c'est bon. Un geste sur une main sur une épaule et un gros câlin. Ça vaut toutes les prières du monde. L'humanité, le Saint-Esprit a besoin de notre humanité. 1 Corinthiens 13 se situe entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Les dons spirituels se posent sur notre amour. Sans ça, c'est blette. Tu veux consoler, tu veux être un outil de consolation. Tais-toi. Aime. Cherche ce qui peut encourager ce sur quoi les gens peuvent s'appuyer. Et manifeste des actes concrets. Et quand tu rentres chez toi, jeûne et prie. L'apôtre Paul a eu besoin d'être souvent réconforté. Deuxième chose, allez, slide suivante. Merci. Il n'a pas eu honte de ses chaînes. C'est là que je m'en souvenais, mais c'est pour te remobiliser. Okay. Il n'a pas eu honte de ses chaînes. Paul était en prison, et à ce moment-là, Paul ne pouvait plus rien apporter à Onésiphore. Plus rien. C'est-à-dire que, autant quand Paul était en liberté, Onésiphore aurait pu avoir la prétention d'être, à un moment donné, leader dans l'Église. Il aurait pu avoir la prétention, peut-être, de rentrer dans une certaine forme de ministère. Peut-être que c'était déjà le cas, d'ailleurs. Il aurait pu avoir la prétention de recevoir quelque chose de la part de Paul. Mais là, Paul était cuit, il allait mourir. Il n'y a plus personne qui venait le voir. Même pour lui emmener un manteau parce qu'il avait froid, il devait faire en sorte qu'on le lui demande. Il devait le demander. Plus personne ne se préoccupait de Paul. Mais pourtant, Onésiphore n'a pas eu honte et est venu le chercher dans ses chaînes. Onésiphore n'avait aucun intérêt à soutenir Paul. Mais simplement, la seule raison pour laquelle il l'a fait, c'est tout simplement parce que Onésiphore aimait Paul. C'est tout simplement parce que Onésiphore avait de la compassion pour Paul. C'est tout simplement, quand je vous l'ai dit que je m'en souvenais, c'est tout simplement parce que Onésiphore, était marqué par le ministère de Paul. Et je crois que c'est hyper important de se dire que, l'amour, c'est gratos. Le véritable amour, c'est de donner gratuitement, comme Jésus l'a fait. Un jour, on était dans un rassemblement de pasteurs, et puis il y avait un pasteur qui prêchait. Pour une fois, il y avait un pasteur qui racontait un truc intéressant. Je vous le présenterai, d'accord ? Donc, je l'ai saisi, d'accord ? Et ça, c'est une anecdote qui m'a marqué à vie. On se situait en Bulgarie pendant la période du communisme, donc c'était une période de famine. Et là, c'était tôt le matin, et puis il y avait un petit enfant qui était devant une boulangerie et qui regardait les beignets. Il aurait bien voulu en avoir. Puis, il y a un homme, un soldat, qui rentre dans la boulangerie avec un grand manteau noir, très digne. Il achète ce qu'il a acheté, et puis, en ressortant, il donne un beignet, une viennoiserie, à cet enfant. Il s'en va. Tout d'un coup, il sent qu'on lui tire sur le manteau. Le soldat se retourne. Puis il y a le petit enfant qui le regarde et qui lui dit « Monsieur, vous êtes Dieu ?» Et le prédicateur de dire la chose suivante « On ne ressemble jamais autant à Dieu que lorsque l'on donne. » Je crois que c'est vrai. Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. Dieu a offert ce qu'il avait de plus précieux pour toi, pour moi. Il t'a donné son amour, il t'a montré son amour. Pour te montrer la voie, il a aimé jusqu'à l'infini. Et il continue à t'aimer jusqu'à l'infini, alors que tu ne le mérites pas, alors que tu as été un pécheur et qu'encore aujourd'hui ta vie n'est loin d'être d'équerre, alors qu'au moment où je suis en train de prêcher, tu dis « Oh purée, c'est vrai que je ne suis pas foutu capable d'aimer, c'est vrai que je ne suis pas capable, je suis tellement pris par mes occupations, par mon travail, que finalement la misère du monde, finalement, je suis tellement pris par mes propres soucis, mes gamins qui me pourrissent la vie, mon mari qui veut divorcer, que finalement j'en oublie de donner. » Stop là. L'amour est un apprentissage. D'accord ? Mais sache une chose et garde cette parole. Tu veux ressembler à Dieu ? Fais comme Onésiphore. Donne gratos. On a cette notion du mérite qui est fondamentalement attachée. Pour être béni, j'ai besoin d'être bien. Si je donne, alors je serai béni. Si je ne donne pas, alors je ne serai pas béni. Vous voulez un exemple ? Allez. Qui n'a jamais eu cette pensée ? Oh ! Il m'est arrivé cette huile parce que je n'ai pas prié ce matin. À qui ça n'est jamais arrivé d'avoir cette pensée ?
Ouais, toi ça t'est arrivé. Hein ?
Bravo Juliette. Et donc, comme si la bénédiction de Dieu ou la non-bénédiction de Dieu était attachée à un acte. Non, Dieu, il donne gratos. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. OK ? Après, ma relation avec Dieu porte du fruit et m'évite de faire des bêtises et me permet de porter des actes positifs. Mais ça, c'est autre chose. Onésiphore s'est occupé de Paul dans ses chaînes. Il a fait ça par amour, il a fait ça par affection, il a fait ça gratos. Slide suivante. L'importance, il s'est occupé de Paul dans ses chaînes, c'est-à-dire qu'il a pris position. Je pense qu'à l'époque, pendant très longtemps, l'apôtre Paul était un cador. Et vous savez, les hommes sont ainsi faits, tant que, regardez en entreprise, tant que vous êtes directeur des ressources humaines et que vous dirigez, vous n'êtes pas forcément aimé, mais personne ne vous lapide. Le jour où, pour X ou Y raison, vous perdez un petit peu de pouvoir ou on vous met dans un placard, qu'est-ce qui se passe ? Tout d'un coup, toutes les rancœurs sont exacerbées et là, votre vie devient beaucoup plus compliquée. Eh bien, Paul, c'était à peu près pareil. C'est-à-dire que tant que c'était l'apôtre Paul qui avait du succès dans son ministère, tout le monde devait être derrière lui, même s'il n'était pas aimé de tout le monde. La seconde aux Corinthiens, à minima, en témoigne. Mais quand Paul était en prison, et que, finalement, son ministère n'était plus avalisé de la même manière, d'autant plus dans cette période de sa vie, je pense que là, tout d'un coup, il devait y avoir beaucoup moins de personnes à le soutenir. Et Onésiphore, contre vent et marée, s'est levé et a dit « Moi, je vais aller voir Paul et je vais prendre soin de lui. » Il a pris position, tout comme Joseph d'Arimathée a pris position devant le Sanhédrin dont il faisait partie, alors qu'auparavant, les évangiles nous disent que Joseph d'Arimathée était disciple de Jésus en secret. Mais là, alors que le corps de Jésus est exposé aux vautours et va être dévoré avec le corps des deux autres brigands, parce que c'est ce qui se passait lorsque quelqu'un a été crucifié, il était livré aux rapaces, eh bien Joseph d'Arimathée va dire « Il est hors de question qu'il se passe ça. » Et il va prendre position, il va aller demander le corps de Jésus de manière à le mettre dans son tombeau. Et à des moments de notre vie, il est nécessaire que nous puissions, parce que ça fait partie de notre ADN, de prendre des positions, non pas par dogmatisme, non pas par excès de sainteté, mais des positions par amour. Des positions qui sont guidées par l'amour. Parce que j'aime, alors je me positionne comme une maman se positionne pour protéger ses enfants. Comme un papa le fait pour protéger ses enfants. Et comme je le fais, moi, parce que j'aime mon Dieu et que je sais que mon Dieu m'aime. c'est juste inévitable. C'est une question de croissance spirituelle. Et je passe à la troisième partie parce que je suis en train d'exploser le temps. Alors à Saint-Denis, pour tout vous dire, j'avais un petit écran en retour sur lequel ils me mettaient un chrono. Et puis quand je dépassais une demi-heure, tu es trop long, tu as dépassé le temps. Des fois même, on me dit « Tais-toi !» Là, j'en ai pas, merci Seigneur. Allez, on continue. Troisième partie. Paul n'aurait rien pu faire seul dans son ministère. Rien du tout. Quand on regarde un petit peu, tu peux m'afficher tous les noms des personnes qui l'ont soutenu. C'est la maison de Nélifort qui l'a réconforté, slide suivante. On s'aperçoit, et là la liste n'est pas exhaustive, que Barnabas est allé récupérer Paul, alors que les disciples n'en voulaient pas. On s'aperçoit qu'il a travaillé avec Priscille et Aquilas, qui ont pris soin de lui à Corinthe. On s'aperçoit qu'il avait besoin de Tychique, qui a été considéré par lui comme un messager fidèle. On s'aperçoit qu'il a eu besoin de Lydie, qui à un moment donné a ouvert sa maison, de manière à ce que le ministère puisse commencer à Philippe. On s'aperçoit qu'il a eu besoin d'Épaphras, qui était un homme de prière, et dont il est un chrétien de Colosse, qui est mentionné comme étant un homme de prière. Bref, le ministère de l'apôtre Paul a été soutenu par toutes sortes d'anonymes, qui ne sont pas aussi clinquants et aussi importants que lui, mais qui pourtant ont, j'allais dire, accompli un travail remarquable, qui ont soutenu l'apôtre Paul. Jésus lui-même, il est dit qu'il était accompagné par des femmes de distinction qui soutenaient son ministère financièrement. Ça fait partie du jeu, quoi. Voyez-vous ? Mon propos, ce n'est pas de dire que l'Église ne peut pas tourner sans vous, ça vous le savez, mais c'est de vous dire, est-ce que vous avez conscience que vous êtes important pour l'Église, en fait ? Ou alors, quelque part, vous venez comme si vous étiez important pour Dieu, mais pas forcément pour l'œuvre de Dieu. C'est une question d'estime de soi aussi, de se dire, waouh, mais en fait, même si ce que je fais n'est pas visible, c'est quand même hyper important. C'est quand même hyper important. Ça arrive, je fais souvent cet effet-là. C'est hyper important ce que tu fais. Le peu que tu fais. Ou le peu qui te semble peu, mais qui en réalité est important pour Dieu. Tout est proportionnel dans la vie. Deux pites dans un tronc, c'est peu. Mais Jésus le remarque. Quelques pains et quelques poissons, c'est peu, mais Jésus le remarque. Et Jésus l'utilise. On aura l'occasion de le revoir, mais le beaucoup et le peu n'ont pas la même valeur et le même sens selon que l'on soit homme ou selon que l'on soit Dieu. Je veux conclure en te disant simplement que le simple fait que tu sois là ce matin, c'est important. Le simple fait que tu sois là, ça a de la valeur. Le simple fait qu'à un moment donné, tu aies ouvert ton cœur pour recevoir une parole, ça a du sens pour Dieu. Ce qui est important, c'est d'incarner de manière concrète ton rôle de pierre spirituelle. Tu fais partie d'un édifice spirituel. Tu fais partie d'une maison spirituelle. Tu es une pierre parmi les autres. Et la pierre que tu es a du sens. C'est important. On mesure bien souvent notre importance à l'aune du nombre d'actes que l'on peut faire. On mesure notre importance à l'aune du nombre de services que l'on peut avoir. Mais la réalité, elle est tout autre. C'est que ce qui fait notre importance, ce qui fait notre valeur, c'est la conscience que j'ai de faire partie d'une œuvre qui me transcende. Je prie pour que le Saint-Esprit maintenant, et c'était la conclusion, Nat, je prie pour que le Saint-Esprit te fasse comprendre maintenant que ta place de pierre, elle est belle, quoi. Et que tu es important. Que tu fasses ou que tu ne fasses pas, le but du jeu, c'est pas t'enrôler dans les services des trucs et des machins. Je suis pas pasteur principal. Je suis tranquille. Ça, c'est ses oignons, c'est pas les miens. Moi, mon problème, ce matin, c'est que dans ta tête, il y a un switch. Et c'est que tu te dises, waouh, je fais partie d'une team, je fais partie d'une équipe qui a survécu durant des années et des années. Je fais partie d'une œuvre merveilleuse, je fais partie d'une œuvre grande, je fais partie d'une œuvre glorieuse. Je fais partie d'une histoire. Je m'ancre dans une histoire avec mes défauts, avec mes péchés, avec mes blessures, avec mes incapacités. Mais j'écris une histoire qui est plus grande que moi et qui me survivra. Oui, ta vie est complexe. Ouais, t'as plein de combats, t'as plein de luttes. Mais il n'en reste pas moins que t'es une pièce du puzzle. Du puzzle divin. Et ça, c'est juste dingue. Imagine que tu sois convoqué demain à l'Élysée. Et que là... Bon, d'accord, ça a perdu un peu de sa valeur, mon image. Imagine quand même. Et que là, tu sois assis entre le président et le premier ministre. Et t'as beau faire « ouais », je pense que tu mettrais quand même ta plus belle robe et ton plus beau costume. Je pense qu'Olivier, il se peignerait. Il mettrait un coup de tondeuse sur sa barbe. Il dirait « je vais faire un petit effort quand même. » Parce que je vais faire partie d'une table extraordinaire. Puis, on se sentirait honoré, quoi. De dire, j'ai été choisi parmi 60 millions de Français pour aller manger, là. Eh, mais t'imagines que tu es assis tous les jours à la table du Dieu créateur ? Tu imagines que tu as été choisi pour faire partie d'une histoire fabuleuse, celle de l'Église, dont tu es peut-être un anonyme. Et effectivement, dans l'histoire de l'Église, on ne se souviendra pas de ton prénom. Dans les coulisses des églises, on ne parlera pas forcément de toi. Mais ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alors demain, eh bien lorsque tu galèreras au travail, dis-toi, je suis fils et je suis fils de Dieu. Et il y a quelque chose qui est plus grand que moi et qui me dépasse. Il y a une histoire qui est écrite pour moi. Demain, alors que tu lutteras avec la maladie, alors que tu galèreras avec les antidépresseurs, eh bien dis-toi bien une chose. Eh bien c'est qu'il y a une histoire qui est plus grande que toi et que tu fais partie d'une histoire qui te transcende. C'est ça, cette réalité. C'est ça, la gloire et l'espérance à laquelle nous sommes attachés. C'est tellement plus grand que nous, en fait. Est-ce qu'on peut juste se taire quelques instants ? Ou plutôt, non, on va se lever. On va lever les mains vers Dieu. Et on va juste le remercier. Parce que ni toi ni moi, on le mérite, ce truc-là. Moi, je ne mérite pas d'être enrôlé dans la team du Seigneur. Je ne mérite pas de jouer avec des Mbappé spirituels. Je ne mérite pas de jouer avec les plus grands. Je ne mérite pas de jouer avec des Paul. Je ne mérite pas de jouer avec des Moïse. Je ne mérite pas de jouer avec des David qui étaient l'homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, je suis au même rang qu'eux. Et toi aussi. Non, mais tu imagines ça ? Dans le ciel, tu seras assis à côté d'Abraham, le père de la foi. Tu seras assis à côté de Samson, celui qui s'est relevé des plus grandes chutes qui soient. Tu seras assis à côté de Pierre. Tu seras assis à côté de toute cette nuée de témoins. Tu fais partie de cette team. C'est dingue, non ? Est-ce qu'on peut louer Dieu tous ensemble là-dessus ? On lève nos mains, des mêmes purifiées, et on remercie tous ensemble notre Dieu. Seigneur, je ne te mérite pas. Je ne mérite pas d'écrire cette histoire.
Je ne mérite pas de faire partie de tous ces anonymes. Je ne mérite pas, Seigneur mon Dieu, de faire partie de tous ces hommes, de toutes ces femmes. Seigneur mon Dieu, qui constitue ton édifice spirituel que tu t'es acquis à cause de ton sang. Je ne le mérite pas. Mais ce que je sais, Seigneur mon Dieu, c'est que je le suis. Je fais partie de ces pierres vivantes. Seigneur, et merci. Merci pour cette grâce incroyable. Merci, Seigneur mon Dieu, pour cet amour incroyable. Merci, Seigneur mon Dieu, pour la joie que tu me donnes. Seigneur, et je prie pour que le Saint-Esprit, eh bien, fasse bouillir nos cœurs à cette idée. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que mes frères et sœurs, alors, eh bien, qui vont peut-être passer par des moments compliqués, se souviennent qu'ils font partie de la plus belle équipe qui soit, celle de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, mon Seigneur. Pardon pour toutes les fois où on l'a oublié. Pardon pour toutes les fois où on a vécu, eh bien, notre rôle de pierre comme une banalité. Mais Seigneur, merci simplement pour ce cadeau merveilleux et extraordinaire. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.